les chroniques Road Movies of Fic du professeur Rosmini.
Well, here we are on the road.
Yeah, that's where we are, all right.
Tous les dimanches à 11h30 sur le 888.
Survey some way free off of the war.
Et sur radiogrenouille.com.
Parmi les textes qui ont été consacrés au road movie, le plus complet, le plus passionnant, le plus exhaustif est sans doute une thèse de doctorat, écrite par Anne Uropop, et titrée « Le road movie, définition, structure, antécédent, évolution ». Donc je serai amené à évoquer plusieurs fois cette remarquable thèse de doctorat, et notamment dans cette chronique, je voudrais évoquer un chapitre qui traite de la préhistoire du road movie. En fait, ce que soutient Anne Uropop dans sa thèse, c'est qu'un genre cinématographique, par exemple le road movie, hein, mais ça marche aussi pour d'autres genres, eh bien ça fonctionne comme une combinatoire de codes. Des codes qui préexistent au genre et puis des codes que le genre crée lui-même. Et les codes peuvent être d'ailleurs cinématographiques ou plus largement culturels. Et donc un genre en fait s'emparerait donc de certains codes et puis les présenterait d'une manière particulière. Le road movie en tant que genre autonome, en tant que genre nommé comme tel, il émerge à la fin des années 60, au début des années 70. Et cette émergence, elle vient après différentes étapes, différentes phases de construction d'un imaginaire de la route aux USA, que reprend donc Anne Uropop dans sa thèse, et que je voudrais brosser rapidement dans cette chronique. La première phase, c'est la phase de la conquête. De la conquête de l'Ouest, donc 19e siècle, donc une phase qui est liée à l'idée de destinée manifeste du peuple américain et même de droit quasi divin à conquérir le territoire. C'est donc l'histoire qui est racontée, bien sûr, par le Western. Alors là, on a une dimension tout à fait mythique dans cette phase. Hein. Par exemple, on pourrait citer la Cumberland Road qui franchit les Appalaches, hein, qui a une dimension tout à fait symbolique, puisqu'ici, la route, c'est la route de la civilisation, c'est la route qui donne du sens, c'est la route qui arrive à vaincre à la fois les espaces naturels hostiles et puis aussi, bien sûr, les peuples qui sont déjà là et qu'il faut civiliser et qu'il faut vaincre. Alors à cette époque déjà, bien sûr, à l'époque même de la conquête, il y a une production littéraire et iconique, d'ailleurs, qui est liée à la route. Par exemple, on peut citer le Song of the Open Road de Whitman, un poète bien connu et un poème bien connu aussi d'ailleurs, dans lequel la route finalement est perçue comme un mouvement vers la diversité, vers l'altérité, vers la rencontre. À l'époque aussi, on trouve beaucoup de tableaux et de photos qui représentent l'Ouest américain et plus spécialement les routes dans l'Ouest américain, avec les convois, etc., qui vont créer des codes iconographiques qui vont influencer largement le western et donc indirectement aussi le road movie. La deuxième phase, elle commencerait donc en 1890, donc la date où est déclarée close la frontière, hein, où ça y est, tout l'espace a été conquis, et elle se termine, selon Anne Uropop, en 1929. 1890-1929, donc l'espace est approprié et donc on peut justement l'habiter pleinement. Notons que c'est aussi à cette époque que sont inventés deux éléments importants pour ce dont il est question ici, à savoir le cinéma, hein, 1895 en Europe, l'invention du cinéma, et puis l'automobile qui est non pas inventée en 1890 mais qui se généralise. Et donc l'appropriation de l'espace de l'Ouest notamment par les Américains, elle va prendre diverses formes. Va prendre la forme du vagabondage avec la figure du hobo qui à la fois va fasciner et va faire peur. À cet égard, là aussi, production littéraire, on peut dire Jack London, The Road, ce qui est une autobiographie de l'errance de London avec comme ça les vagabonds. C'est aussi une autre forme d'appropriation, c'est le tourisme, c'est l'invention du tourisme dans l'Ouest américain. Et ici, la route apparaît comme un espace d'encanaillement et comme un espace aussi d'ailleurs qui est lié au tourisme, un espace de scénographie. C'est l'apparition des stations-service, des motels, des façades, des publicités. Et donc il y a tout un univers visuel qui naît comme ça à la fin du 19e et dans les premières années du 20e siècle, qu'on va retrouver bien évidemment comme des motifs majeurs dans le road movie. Troisième phase, Après 1929, ben 1929, on le sait, c'est la grande crise et le début de l'exode de beaucoup de travailleurs sur les routes américaines. Et donc là, la route devient un symbole plus ambigu. Jusque-là, la route était un symbole essentiellement positif. D'abord, le symbole de la civilisation triomphante, et puis ensuite, le symbole de l'appropriation de l'espace, soit par le vagabondage, soit par le tourisme, etc. Or ici, la route, elle passe un peu du rêve au cauchemar, puisque la route, c'est celle de l'errance, de la pauvreté, et d'une mobilité qui n'est plus une mobilité hédoniste et choisie, comme celle du tourisme, mais une mobilité forcée. La mobilité du travailleur qui est chassé de sa terre. Alors là aussi, beaucoup de photographies à l'époque, on s'en doute, qu'on peut retrouver facilement. Une production littéraire abondante, qui est dominée bien sûr par Steinbeck et Les raisins de la colère, bien évidemment, qu'il écrit d'ailleurs, Steinbeck écrit le livre après une enquête sur le terrain, hein, sur ces gens qui sont donc errants sur les routes. Et puis, une production cinématographique, avec notamment ce qu'on a appelé les topical films, donc une série. On peut citer un exemple majeur, c'est Mervyn Leroy, 1932, un film qui s'appelle « Je suis un évadé », et qui est un film intéressant, on est en 1932, parce que c'est une des premières représentations pessimistes de la route, ce film. Or, dans le road movie, contemporain, eh bien, la route va souvent être un symbole assez pessimiste, en fait. Hein. Et donc, dans les années 30, c'est aussi le moment où la route devient un thème important pour un peintre comme Edward Hopper, par exemple, qui va largement influencer, on le sait, les cinéastes du road movie. Et on sait que chez Hopper, la route, eh bien, c'est un lieu à l'inquiétante étrangeté, hein, puisque Hopper a l'art de rendre inquiétant et bizarre des lieux par ailleurs assez banals. Et ça aussi, bien sûr, ça va se retrouver dans le road movie. La route va ensuite prendre une connotation un peu différente autour du New Deal, puisque la route va toujours être la route des travailleurs errants, mais ça va être aussi la route qui est construite, puisque le New Deal va consister notamment à construire de nouvelles routes, et donc elle va se recharger d'un petit peu d'optimisme. Et puis enfin, la dernière phase qui va précéder vraiment la naissance du road movie, avec notamment Easy Rider, par exemple, en 69, eh bien on peut dire qu'elle va de 45, de la fin de la guerre, jusqu'à la fin des années 60. Et là, la route, elle va être liée à autre chose. Ça va être la route de la subversion, de la contestation, de la contre-culture. Et là, bien sûr, la figure majeure, c'est Kerouac. God said, Abraham, kill me a son. Abe said, man, you must be put me on. God said, no. Donc, on ne prend plus la route comme au 19e siècle pour conquérir l'espace, pour lui donner un sens, pour affirmer les valeurs occidentales, chrétiennes, etc. sur l'espace. On ne prend plus la route simplement pour faire du tourisme, comme au début du siècle. On ne prend plus la route parce qu'on est chassé de chez soi et qu'on cherche du travail, comme chez Steinbeck. Mais on prend la route parce que la route devient un symbole de rébellion, un symbole de refus de la sédentarité, de refus d'un certain mode de vie conventionnel, etc. Un film comme L'équipée sauvage en 1953, par exemple, de Laszlo Benedek, va bien sûr exprimer cette idée, entre autres. Il y a aussi toute une série de films de motards qui vont précéder d'assez peu Easy Rider, produit notamment par Roger Corman. On va retrouver aussi ce thème un peu transgressif dans le pop art. Hein, et puis, par exemple, on pourrait citer comme exemple la série des accidents d'Andy Warhol, qui exprime aussi cette angoisse liée à la route. Et puis on pourrait citer aussi le thème du trip. Hein, le trip, c'est à la fois le voyage intérieur par la drogue et puis le déplacement dans l'espace. Hein, donc il va y avoir cette association dans l'Amérique de la contre-culture des années 50 et 60 de la drogue et de la route. Par exemple, en 1964, il y a l'aventure des Merry Pranksters. C'est Ken Casey, qui est donc un écrivain, qui achète un bus scolaire, qui le repeint avec des couleurs psychédéliques, et puis avec une bande de joyeux fêtards, ils vont parcourir l'Amérique dans une sorte de happening permanent avec une caméra sur le toit. Et donc là, on est vraiment ici à la frontière entre la vie et l'art, entre le cinéma et la réalité, etc. Et voilà, donc ce qui est intéressant, que je ne pourrais pas développer aujourd'hui, mais c'est de voir qu'en fait, beaucoup des road movies qui vont être réalisés à partir de 1969 et jusqu'à aujourd'hui, hein, vont en fait jouer sur ces différentes strates de l'imaginaire de la route américaine. Voilà, ils vont jouer à passer aussi parfois d'un symbole à un autre, d'une époque à une autre, etc. Et donc le road movie va naître après toute cette évolution de l'imaginaire de la route.
Les chroniques road moviesophiques du professeur Rosemini. Mmh.
Well, here we are on the road.
Yeah, that's where we are, all right.
Tous les dimanches à 11h30 sur 888.
Surveys and we free off for the war.
Et sur radiogrenouille.com.